Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast Comics sans MST. Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Comics sans MST, c'est le podcast qui parle de sexe dans la vraie vie, sans tabou ni préjugés. Pauline et Simon l'ont créé en janvier 2020. Dans cet épisode crossover, on fête la nouvelle année en parlant de sexe. Si tu ne le sais pas encore, le sexe, c'est mon sujet de conversation préféré dans la vie. Dans cet épisode, nous allons discuter de sex toys, de masturbation et de sexualité en célibataire, en solo. Bonne écoute. Bon, alors moi, je commence tout de suite en me présentant comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe et je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Voilà, c'est un peu long à chaque fois. Bonjour Pauline.
Salut, comment tu vas Marie ?
Ça va super. Comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas ?
Alors, moi je m'appelle Pauline Ferrari, j'ai 25 ans. Je suis journaliste spécialisée sur les nouvelles technologies, les questions de genre et de société, féministe. Je m'occupe donc du podcast Comics sans MST qui parle des sexualités au pluriel et le sexe de la vraie vie. Et moi, je me définis comme une femme cisgenre, hétérosexuelle, blanche, grosse et athée. Et je pense que c'est ça, c'est pas mal ça.
Merci. Maintenant, on peut y aller. Parlons de cul et de célibat, c'est parti.
Je pense qu'on aura un peu les mêmes trucs, mais moi je me demandais, parce que je pense qu'on a un peu le même avis là-dessus, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Est-ce que tu penses qu'il y a un double standard pour le célibat et la vie sexuelle concernant, et c'est très binaire malheureusement ce que je vais dire, mais les hommes et les femmes dans notre société? Comme une espèce de double standard sur le fait que les mecs, quand ils sont célibataires, c'est génial, ils peuvent baiser tous les gens qu'ils veulent, etc. Et que les meufs, ce serait un espèce de... Comment dire, un espèce, comme tu disais, de passage en attendant de trouver quelqu'un. Et où, du coup, la vie sexuelle est complètement inexistante pour les femmes célibataires.
Tu veux dire, est-ce que je trouve qu'il y a le double standard dans la société ou est-ce que je trouve que ça existe vraiment?
Les deux, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'intéresse.
Ouais, bah moi je me retrouve pas du tout dans ces cases et du coup mes amis non plus et donc je trouve ça vraiment hyper vieux jeu. Mais après oui, j'ai conscience qu'il y a pas mal de femmes, peut-être qu'on est plus socialisé à vouloir chercher le grand amour et du coup quand on est célibataire, ce soit juste un passage. Mais par contre non, enfin des célibataires, enfin même si on cherche le grand amour, même si on est triste d'être célibataire, ça n'empêche pas qu'on ait une sexualité en fait. Et après, je sais pas s'il y a des études, peut-être que les mecs quand ils sont célibataires, ils font plus de sexe que les meufs, mais pas forcément. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
C'est plus l'image qu'on renvoie sur la vie sexuelle pendant le célibat. Parce que en fait, quand on parle de célibat, j'ai l'impression qu'il y a cette réflexion qui arrive beaucoup, qui est de c'est un peu triste quoi. C'est un peu triste pour toi. C'est un peu ou ça fait t'es célibataire depuis j'en sais rien. Si tu dis que tu t'es célibataire depuis 5-6 ans par exemple, tu vois, sur une durée un peu longue, et je mets beaucoup de guillemets à longue parce qu'il y a pas forcément de normes. C'est comment on te fait envisager ton célibat, et comme si le fait d'être célibataire signifiait que tu étais complètement seule, c'est-à-dire que tu n'avais pas forcément de relation sexuelle non plus. Et ça, c'est... quand j'ai écouté ton premier épisode, c'était hyper intéressant, je crois que t'en as parlé un moment. C'est pas parce que t'es célibataire que forcément t'as pas des relations sexuelles avec des gens. Et comment ces relations sexuelles-là, tu les envisages si, par exemple, tu n'as pas envie d'être en couple après une relation sexuelle. Il y a plein de gens à qui ça arrive, tu couches avec des gens et basta, quoi. Mais, et du coup, sur les applis de rencontre, énormément, c'est quelque chose qui, je trouve, est compliqué sur le fameux « qu'est-ce que tu recherches ?». Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce d'idée en tête dans les relations hétérosexuelles, en tout cas, que les meufs coucheraient avec des mecs dans l'idée de les enfermer dans une relation derrière. Et ça, c'est un truc qui me... J'en peux plus. C'est terrible. Enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, quoi, qui me questionne beaucoup en ce moment.
Ouais, mais sur ça, en fait, moi, avant, j'étais vraiment comme toi, saoulée par cette conception. Et sur les applis, à chaque fois, je me présentais comme une chaudasse, voilà, qui veut juste du cul, qui suis pas du tout intéressée par des relations sur le long terme. Et en fait, du coup, je trouvais des. Bah, à l'époque, je draguais que des mecs, donc je trouvais des mecs qui étaient intéressés par la même chose, donc des trucs hyper éphémères, qui avaient jamais été en relation plus de 2 mois dans leur vie. Enfin, j'exagère, mais tu vois, des mecs totalement immatures émotionnellement. Et en fait, ils m'ont tous traité comme de la merde. Je parle vraiment des applications de rencontre où je me présentais comme cette meuf intéressée que par le sexe, ce qui était peut-être vrai pour une partie de moi-même, mais ça veut pas dire que je veux des relations de merde avec des mecs qui me ghostent du jour au lendemain. Et moi, je considère que si la relation est cool, pourquoi on pourrait pas aller plus loin? Et du coup, maintenant, j'en suis, bah, ça fait un an presque que j'utilise, ça fait depuis le début de la crise que j'utilise plus d'appli de rencontre. Mais maintenant, si je devais y retourner, j'y ai pensé à ça hier, si je devais y retourner, bah, au contraire, tu vois, je me mettrais comme une meuf relou qui veut enfermer le mec. Donc, je dirais pas ça, mais je dirais, bah, moi, je cherche une relation sérieuse avec quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, qui a déjà été amoureux, qui me traite pas comme de la merde. En fait, on est obligé de les enfermer, tu vois. On critique les meufs qui veulent des trucs sérieux, mais c'est juste que on en a marre de tomber sur des connards. Donc, à un moment donné, c'est pas forcément qu'on cherche l'amour de notre vie et qu'on cherche à se mettre en couple et avoir des enfants. C'est juste qu'on a envie d'avoir des relations épanouissantes. Et un coup d'un soir, ça peut être épanouissant. Mais si ça fait 3 semaines qu'on se parle sur une appli, qu'on s'est dit je t'aime, qu'on s'appelle tous les soirs, excuse-moi, mais c'est pas un coup d'un soir. Enfin, moi, quand je veux avoir un coup d'un soir, je vais dans un bar et je baise avec un mec. Mais sur les applis, je trouve que, en fait, les personnes, voilà, elles vont draguer et sous couvert de draguer, elles vont dire des choses gentilles, on va s'attacher l'un à l'autre et puis après, enfin, c'est hyper fréquent qu'on se voit une fois, deux fois et la personne te gosse parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et bah, ça, je pense que ça existe et j'en ai été victime et du coup, je comprends bah, les meufs qui enferment les mecs, entre guillemets, en disant qu'elles veulent un truc sérieux, quoi. Et c'est juste aussi que moi, j'ai 26 ans, donc tu vois, plus je vais vieillir, pire ça va être parce que j'ai pas de temps à perdre, tu vois, j'ai pas envie d'avoir des relations de merde jusqu'à ma mort.
Mais c'est ça, ce truc des relations de merde, c'est vraiment. Enfin, je suis célibataire depuis quelques mois et quand je suis redevenue célibataire, j'ai eu une espèce de pensée qui m'a beaucoup fait mal. Je me suis dit, je vais devoir repartir dans cette jungle qu'est le célibat, tu vois. Je me suis dit, mais en fait. Et je le disais à mes potes, je disais, mais je suis épuisée. Genre, j'ai pas la force, en fait, de repartir là-dedans. Ça demande tellement d'énergie physique, émotionnelle, d'être là-dedans et avec toute cette espèce d'idée de la séduction, de jeu, de faut que tu répondes à tel moment, et puis machin, et puis. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et vraiment, là, il y a quelques mois, j'étais saoulée. C'était vraiment le mot le plus. J'étais saoulée d'avance à l'idée de me retrouver célibataire parce que je disais à mes potes, je disais, moi, j'ai envie de rencontrer des gens plus ou moins long terme. Et genre, enfin, je sais pas, en fait. Et juste, je savais le travail émotionnel que ça allait me demander. Et j'ai dit ça donc en début septembre. Là, on est en décembre. Et ça s'est vérifié énormément. Et j'ai jamais été aussi épuisée émotionnellement des hommes que depuis 3 mois. Parce que j'en parle beaucoup avec ma psy. Elle rigole beaucoup toutes mes histoires. Mais c'est terrible à quel point. Puis à quel point tous les. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prends mal. Mais tous les mecs hétéros que j'ai pu rencontrer, notamment sur les applis. Parce que dans le contexte actuel. Bah, c'est beaucoup plus facile, les bars sont fermés, tu vas pas chez tes potes, tu rencontres pas forcément de gens extérieurs. Puis il y a aussi le truc de plus on vieillit, plus notre cercle social quand même se stagne parce que on change pas forcément de taf, on rencontre pas forcément de nouvelles personnes, de nouveaux amis en fait, plus tu vieillis. Donc ça a quand même restreint ton cercle. Et de tous mes potes, par exemple, je suis une des seules qui est célibataire, quoi. Et je sais que ça va pas forcément changer dans les années à venir. Et je vois tous les mecs hétéros que j'ai rencontrés ces derniers mois, c'est des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on pouvait avoir certains types de relations, mais que je demandais le même niveau de respect que si on allait tomber amoureux et se marier et avoir, tu vois, une maison en Ardèche et un Labrador dans les 3 prochains mois, quoi. Et je trouvais ça aberrant de demander ce qui me paraissait être la décence humaine. Le strict minimum, quoi. Le SMIC affectif, quoi. C'était vraiment ça. Et j'avais l'impression que c'était hyper problématique. Et j'ai toujours l'impression que c'est hyper problématique pour plein de personnes. Donc, je sais pas. C'est vraiment... ça me questionne beaucoup, quand même.
J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais après, en fait, c'est pas le sujet de l'épisode de parler des mecs et de la misandrie, mais je trouve qu'en étant en couple avec un mec, si on est heureuse avec lui, même s'il y a des trucs qui va pas, je trouve que c'est facile, de demander le respect, voilà, d'être satisfaite de la relation et d'avoir une bonne image de cette personne. Mais en étant célibataire, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire et juste, ils me déçoivent de plus en plus, tu vois, et c'est hyper facile de tomber dans la misandrie, d'aller dans la misandrie, parce que vraiment, genre, t'es obligé de demander ce que tu disais, le respect. Enfin voilà, après, je peux en parler pendant des heures, c'est pas le sujet du jour, mais...
Je vais juste, avant qu'on passe vraiment à parler de cul, moi, il y a un truc, j'ai une nouvelle technique maintenant, c'est que j'ai acheté Moi, les hommes, je les déteste, et j'ai adoré ce bouquin, et voilà, je le kiffe de ouf. Et il s'avère que je l'ai laissé un peu en évidence dans ma chambre, sans trop faire exprès, en fait, à la base. Et sur les murs de ma chambre, il y a plein de grosses citations féministes que j'ai écrites, enfin voilà, pour un peu me lever le matin en étant dans le mood, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce que les hommes qui viennent chez moi, du coup, ils rentrent dans un espace où il y a beaucoup de signaux. Il y a beaucoup de signaux et je me rends compte qu'en fait maintenant la misandrie pour moi c'est une phase de drague c'est une rhétorique de drague que j'utilise. Et si le mec en rigole et dit oui en effet on est des connards, allez c'est bon, ça se passe beaucoup mieux quoi.
Ouais, enfin après moi aussi je suis tombée sur plein de mecs qui me disaient que c'était génial la misandrie, qu'ils étaient super féministes, mais en fait c'était les pires donc il faut des preuves tu vois, mais c'est déjà pas mal.
Parler de cul, c'est hyper important pour moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu penses que en tant que célibataire, il faut qu'on parle de sexualité? Est-ce que tu penses que c'est important déjà?
Bah, moi, je pense que c'est important pour moi. C'est-à-dire que moi, la sexualité, ça me passionne. Je suis hyper malheureuse de pas pouvoir faire de sexe en ce moment pour plein de raisons. Enfin, pour plein de raisons, je peux pas en faire. Et par exemple, je vis avec ma sœur, qui a 21 ans, donc 5 ans de moins que moi, et elle est lesbienne, et le cul, elle déteste ça, tu vois. Ça l'intéresse pas du tout. Donc, en fait, je pense que moi, ça m'intéresse. Je vais pas forcer les gens à s'intéresser à ça. Mais ça m'intéresse autant que quand j'étais en couple, en fait. C'est pas une question d'être célibataire ou pas. C'est juste, moi, ça me passionne parce que j'adore le faire et que je trouve que c'est vraiment une belle parenthèse dans cette vie éphémère et difficile. Mais... Voilà, j'en parle beaucoup. J'ai un podcast qui s'appelle Marie sans filtre où c'est un des sujets principaux. Et de toute façon, c'est politique. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. On apprend à faire du sexe un tabou et du coup, il faut pas en parler avec nos parents. Quand on en parle même avec nos copines, on met plusieurs années des fois à en parler. On utilise un petit peu des contours. Même moi, avec mes amis proches, on parle de sexe, mais quand on va dans les détails, c'est trop cool, mais ça arrive pas tous les jours, tu vois. Faut être quand même dans une certaine confiance. Et moi, quand je parle à mon micro et que je fais mon podcast, je sais pas qui va l'écouter, mais je suis toute seule dans mon studio. je suis beaucoup plus libre. C'est pareil quand j'écris sur mon blog ou dans mon journal. Et du coup, c'est des moments où je peux vraiment aplatir les choses et dire vraiment ce que je pense. Et là, je suis en train de faire éditer un livre, mon premier roman peut-être. Et c'est une grande, grande partie du livre qui parle de sexe. Et en fait, j'ai jamais lu ça. Tu vois, c'est-à-dire que je parle pas de sexe en mode c'est érotique, genre machin, couche avec bidule. Je parle vraiment de trucs ultra crus, genre comment je me masturbe, de quelle façon, parce que c'était un moment où j'étais seule, de préservatifs, tu vois, de d'éjaculation féminine, de règles, et c'est des trucs que je n'ai jamais lu dans un roman publié dans une grande maison d'édition, tu vois, ou même dans une petite.
Mais il y a ce truc-là aussi, notamment sur le sujet de la masturbation, c'est quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, qui est assez lié au célibat, malheureusement, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée qui est en train de partir quand même, que à partir du moment où t'es en couple avec quelqu'un, tu te masturbes plus, ce qui est pas forcément une vérité. Il y a des gens qui continuent, il y a des gens qui arrêtent, enfin c'est très dépendamment de chaque personne, comme d'habitude. Mais du coup, la masturbation, j'ai la sensation que c'est très lié au célibat. Moi, j'avais envie de te demander comment... est-ce que tu as eu une éducation à la sexualité qui comprenait la masturbation dedans, ou ça a été une découverte partout, sur le tas, on va dire, tu vois, comme beaucoup de gens, en fait.
C'est marrant ce que tu racontes, parce que moi, j'ai découvert la masturbation en couple. Donc, je m'étais déjà masturbée, tu sais, sur un rebord de chaise quand j'avais 12 ans, en regardant un mec qui me faisait kiffer, mais j'avais jamais eu d'orgasme, j'avais jamais considéré ça comme de la masturbation. Et la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était en me frottant à un mec avec qui je sortais quand j'avais 16 ans, et après, ou 17 ans, et après, j'ai commencé à me masturber, et je me disais, ah, mais c'est incroyable! Donc, c'est entre guillemets grâce à lui que je me suis commencé à me masturber, et après, c'est devenu ma passion. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu du tout d'éducation à ça avant, et j'ai jamais, en même temps, j'ai jamais eu de culpabilité à le faire, mais comme j'ai commencé très tard en même temps, tu vois, je l'ai toujours fait, et plus ou moins régulièrement, et je sais que ma sœur aussi le fait, que mes amis le font, en couple ou pas, enfin, pour moi, c'est juste totalement normal. Et toi?
Et moi, j'ai découvert ça très très tôt. Je crois que j'étais gamine encore. Mais je ne l'ai pas conscientisé comme ce que c'est réellement avant, je pense, le collège ou le lycée. Parce que je me rappelle quand je crois que c'était en troisième, un truc comme ça, j'avais un meilleur pote mec, pour le coup. Et qui, un jour, lui, il était avec sa bande de potes mecs, et moi, j'étais avec ma bande de potes meufs. Et une fois par semaine, on mangeait ensemble à la cantine du collège. grosse amitié. Et un jour, il revient hyper en rigolant, tu vois, genre grosse poilade. Et il me dit, ouais, j'ai découvert un truc de ouf et tout, machin. Et en fait, il m'explique ce que c'est la masturbation pour les mecs, tu vois, de son côté. Et il me dit, ouais, c'est... Et en gros, il a eu cette phrase... disant c'est incroyable et en plus vous avez pas ça, et enfin genre il vous manque quelque chose, vous pouvez pas faire ça. Et je me rappelle que cette phrase m'a vachement questionnée, et je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qui se passe. Et du coup j'en étais allée parler à mes copines meufs qui étaient toutes choquées par cette question, et je me rappelle être rentrée chez moi et étant née en 1995, j'ai eu chez mes parents le guide du zizi sexuel de Zep, qui est très problématique sur plein de choses d'ailleurs, mais où à l'intérieur ils expliquent quand même ce que c'est la masturbation chez les petits garçons et chez les petites filles. Et je crois que ça a été un de mes premiers souvenirs où je me suis dit, mais en fait ce que je fais depuis plusieurs années, c'est un nom, il n'y a pas que moi qui le fais, la preuve c'est dans un livre. Tu vois, il y avait un peu cette réflexion là. Et en fait, à partir de là, c'était acquis pour moi que c'était quelque chose que tout le monde faisait mais n'en parlait pas. Et après, quand je suis rentrée dans les études supérieures, je me suis fait une bande de copines qui est toujours ma bande de copines actuelle, qui ont toutes fait des études liées au féminisme. Donc très tôt, en fait, on s'est connecté là-dessus, et très tôt on a commencé à parler de cul et de masturbation, et on a pu déconstruire énormément de choses ensemble, et j'ai énormément appris grâce à elles. Et enfin, on continue à s'apprendre des trucs mutuellement, même dans des relations avec d'autres gens. Moi, là, ça fait 2 ans que des fois, il m'arrive des galères de cul. Ça arrive à tout le monde, les galères de cul. Mais typiquement, la galère de cul, c'est la spéléologie du préservatif à 2h du matin, tu vois. Et la première fois que ça t'arrive, tu te sens seule là-dedans. Tu te sens tellement seule. Parce que moi, personne m'en avait parlé. Personne m'en avait parlé. Et en parlant à mes potes, en disant, oh là, il m'est arrivé ça, c'était une galère de ouf. Et t'as toutes les meufs sur la conversation qui font « Oui, bah moi aussi, oui, bah moi aussi, oui, bah moi aussi, je suis là. Quoi ? Mais pourquoi on n'en parle jamais ?» Alors que c'est un moment certes gênant, mais en soi qui logiquement, tu t'en sors, quoi. Tu t'en sors et c'est galère, il y a des problèmes, voilà. IST, MST, contraception, mais en soi, tu vas pas mourir, quoi, tu vois. Donc c'est aberrant, je trouve, à quel point on parle pas de tous ces sujets-là. Et de la masturbation pour les filles, c'est... Je pense que c'est un des trucs qui reste encore super tabou, quoi. Et c'est très problématique. Parce que ça empêche après de vivre une sexualité beaucoup plus épanouie quand tu grandis, de moins avoir honte de ton corps, tu vois, genre rien que ça, tu vois. Rien de savoir... j'ai eu une de mes meilleures potes, elle a été en couple pendant 7 ans avec un mec. Et là, elle est plus avec, et elle m'a dit, mais je sais plus comment je vais faire sexuellement parlant. Et je lui ai dit, mais Mais on va trouver, on va, enfin, il y a plein d'autres choses qui existent. Et elle était vraiment dans ce truc-là de se dire, mais je sais pas, en fait, ça fait trop longtemps que je me connais pas vraiment. Et enfin, je sais pas, il y a ce truc-là de connaissance aussi de soi et de connaissance du corps, je trouve, qui est dramatique chez les jeunes, quoi, chez les jeunes filles, et plus tu grandis, quoi.
Tout à fait. Je n'ai rien à ajouter, je suis d'accord.
Non, mais c'est vraiment ça sur le truc de la masturbation. Et moi, j'aimerais te demander, est-ce que, du coup, si la masturbation, c'est quelque chose que tu as envisagé là depuis plusieurs années, est-ce que, comment dire, est-ce que tu. C'est quoi ton avis sur les sextoys? Sur tout ce truc-là, enfin, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, je pense que c'est absolument génial et j'ai plein de sextoys. Mais je pense qu'on devrait avoir des cours. Enfin, je trouve que j'utilise pas les sextoys à 100% de leurs possibilités et que j'en ai pas encore assez et que je devrais plus explorer, tu vois, tester des trucs seule. Et en fait, merde. Et du coup, je trouve que j'ai pas, tu vois, j'utilise la masturbation un petit peu comme un défouloir, un truc de j'ai envie de le faire là maintenant que ça dure 3 minutes. Mais quand tu fais du sexe avec quelqu'un, il y a plus d'aller explorer des trucs, de prendre du temps. Et je prends pas assez de temps quand je me masturbe. Et toi, c'est quoi tes trucs? Enfin, t'en penses quoi des sextoys?
Moi, les sextoys, c'est une passion de ouf, genre énormément, parce que à la base, ça a commencé comme un sujet de boulot. En fait, c'est souvent ça, et c'est un peu pareil avec le podcast ou quoi, c'est que, en fait, il y a plein de trucs. À la base, c'est des trucs que j'étudie pour des papiers, pour des articles, et en fait, je me dis, ça a l'air sympa quand même. Et les sextoys, typiquement, c'était ça, ça m'a toujours un peu fascinée, cet univers-là, en plus, avec toute l'image que ça renvoie. Du sex shop un peu sombre à Pigalle et j'ai habité à Pigalle pendant un moment et du coup j'étais un peu entourée par ces énormes magasins qui font un peu flipper en vrai parce qu'il y a des trucs énormes et les gens qui rentrent dedans c'est souvent des vieux monsieur avec des impairs, enfin genre t'as pas envie d'aller là-bas tu vois, et il y a aussi voilà toute l'image que ça renvoie. Et puis un jour, j'ai eu des sous de mes grands-parents à Noël. C'est horrible. C'est horrible de dire ça en vrai, mais. Et je suis rentrée dans un love shop pour le coup, qui est un peu la version édulcorée des sex shops un peu crado de Pigalle, quoi. Et j'avais un budget en tête et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Allez-y. Et du coup, j'en ai acheté un et je me rappelle être rentrée dans mon appart. Je vivais toute seule à l'époque et d'avoir essayé ça et de m'être dit. Pourquoi j'ai passé tant d'années sans ça? Pourquoi j'ai attendu si longtemps pour m'offrir ça? Et du coup, j'ai commencé à en acheter. J'en ai pas énormément, là, j'en ai quelques-uns. J'ai commencé à en acheter quelques-uns, mais des trucs où je mettais le prix dedans, enfin des trucs un peu chers, on va pas se mentir, enfin qui sont pas accessibles à tous les budgets. Des trucs un peu chers, parce que j'ai une passion pour la technologie, et du coup, tout ce qui est technologie appliquée au sextoy, c'est une passion de ouf. Et rien que d'aller en love shop et de dire genre comment ça fonctionne ce truc-là, mais pourquoi et machin. Et c'est génial quoi, c'est génial. Et du coup, après le seul problème que j'y vois, c'est j'ai la sensation, et c'est. Enfin, j'ai peur en fait que ce boom-là autour des sextoys, ça soit une énième injonction à la sexualité aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de les utiliser. Et parce que c'est en train de devenir un truc un peu faut que toute meuf un peu épanouie ait son sexe, tu vois. Faut qu'elle connaisse des trucs machin et tout. Et en fait, bah non, t'es pas du tout obligée. Tes doigts c'est très bien, ta couette c'est très bien. Enfin, peu importe ta manière de masturber de base, c'est déjà très bien et t'as pas besoin d'investir 200 balles dans un truc robotique qui qui simule 8 trucs en même temps. Enfin. Y a un peu, c'est un truc très capitaliste aussi et très consumériste et qui est très dérangeant en fait quelque part aussi. Donc c'est arrivé à trouver ça et puis il y a toute la question sur les sextoys de comment c'est fabriqué en fait, comment c'est fabriqué, où est-ce que c'est fabriqué, les matériaux qui sont utilisés. C'est aussi des questions écologiques, quoi. Donc, il y a plein de questions comme ça auxquelles il faut se poser. Et je sais pas, je trouve ça hyper intéressant, en fait, l'univers des sextoys, et à quel point, quand j'ai interviewé des nanas qui créent des sextoys, beaucoup aux États-Unis, à quel point elles n'arrivaient pas à se faire financer, en fait. À quel point elles arrivent. Enfin, il y avait très peu de marques tenues par des femmes et des personnes LGBTQIA+, qui essayaient justement de faire. Des sextoys non genrés ou enfin qui essaient un peu d'améliorer le game et qui juste se faisaient pas financer parce que les investisseurs étaient hyper mal à l'aise parce que enfin et que ça continue toujours à être un truc lancinant de honte quoi et de peur. Enfin, c'est ça qui me fume quoi.
Non mais tu es totalement experte. Je suis totalement d'accord, comme avant.
Mais c'est, je sais pas, c'est la question des sextoys, c'est un peu. Mais c'est comme amener des. Enfin, je sais pas, est-ce que t'es déjà allé dans un love shop ou dans un sex shop d'ailleurs ?
Ouais.
T'es
ouais.
déjà allé ? Est-ce que t'as eu la sensation. Enfin, moi, chaque fois que je vais dans des love shops, j'ai la sensation que les gens autour de moi sont gênés. Tu vois ce que je veux dire ? Ou, genre, tout le monde est là, mais. Tu sais, t'as pas envie qu'on te reconnaisse. Tu vois ce que je veux dire? Les love shops, c'est un peu moins le cas. Ça dépend desquels. Genre Passage du Désir, qui est une chaîne qui est en plein centre-ville de Paris. Enfin, il y a zéro souci. Mais quand tu vas dans des trucs un peu plus underground et tout, enfin, des sex shops un peu moins... qui ont moins de pignon sur rue, on va dire. C'est... Et puis, dépendamment dans quelle section aussi du sex shop tu es, j'ai l'impression que tout le monde... Tu sais, personne n'ose trop se regarder. C'est un peu... Je sais pas comment les dire. C'est un peu chelou, quoi.
Ouais, non, moi, je n'y suis pas allée seule, je crois, tu vois. Et j'y allais avec des potes ou avec mon mec, donc j'avais pas trop ça. Et puis, je suis allée que dans des trucs genre Passage du Désir, donc... Ouais, j'étais pas trop gênée. Mais en général, je commande sur Internet, donc, tu vois, quand même.
Enfin, c'est vraiment ce truc-là... d'accessibilité aussi par internet, je pense que ça a permis à plein de gens de se sentir moins honteuse, tu vois, à commander des trucs entre guillemets que, enfin, c'est pour eux, tu vois. Genre, y a, enfin, je trouve que c'est typiquement le genre de produit où, pour le coup, même si tu peux faire des cadeaux à quelqu'un, ça reste quand même en majorité logiquement pour toi. Et choisir que ce soit la couleur qui te plaît, le produit qui te plaît dans ton budget et tout. Je trouve ça incroyable. Genre, je trouve ça vraiment trop, trop incroyable.
Ouais. J'ai trop envie d'en acheter plein à chaque fois.
Mais ouais, mais ça coûte trop cher. Moi, c'est vraiment... ça coûte trop une blinde. Et heureusement que sur les trucs très technologiques, maintenant, t'as des... Comment ça s'appelle ? Des garanties pendant 1 ou 2 ans. Et au final, en fait, t'as des sextoys pendant 8 ans. mais sinon, ça coûte trop cher, quoi. C'est vraiment... Coûte une blinde et... Je crois que mon objectif en ce moment, c'est qu'on ait des partenariats avec des marques de sexo. Moi, j'aimerais bien devenir une de ces influenceuses sexo qui reçoit genre des box entiers de sextoys. Et ça me ferait trop kiffer. Je pense que c'est vraiment...
Ah, tu veux devenir influenceuse?
Mais en vrai, je pense pas, parce que c'est en termes éthiques, avec mon métier à côté, ça me conviendrait pas. Mais en même temps, il y a des fois, j'aimerais bien qu'on m'envoie des trucs.
Parce que moi, je viens d'essayer et c'est hyper dur. Je pense qu'il faut déjà être une star de base. Mais juste de recevoir des trucs gratuits, j'ai trouvé ça trop cool.
Ça, c'est vraiment stylé ou pas? Ça a l'air vraiment stylé. Mais par exemple, là, avec Comics Sans MST, on va faire un jeu concours pour Noël. Avec WowTech. Et donc, WowTech, ils sont basés à Berlin. Et c'est ceux qui possèdent Womanizer et WeVibe. Donc, il y a une marque de sextoy connecté. Vibrant, tout ça. Et du coup, on va faire un jeu concours parce qu'apparemment, ils nous font gagner des trucs. Donc, faut que je finisse de signer les contrats et de faire genre voir ce qui est possible. Mais apparemment, on va faire gagner des sextoys à des gens. Et du coup, je suis trop saucée. Enfin, je trouve que c'est un trop bon cadeau de Noël, quoi. Si je peux offrir un truc à quelqu'un qui en a envie, ça me ferait trop kiffer. Enfin, vraiment, le côté mère Noël. Du coup, j'ai dit à Simon, donc qui est mon co-animateur. Je lui ai demandé si on pouvait faire des photos avec des pulls de Noël vraiment moches, avec plein de sextoys comme ça, en les lâchant, tu sais, en l'air comme des cotillons, tu vois, avec plein de Photoshop. Je pense que ça peut être très, 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 très rigolo.
T'avais vu la story de Elvire de Clit Révolution? Elle avait fait une vidéo où en fait elle avait reçu un calendrier de l'Avent d'une marque. Et à chaque jour, c'était, ça, je sais pas combien il coûte ce calendrier de l'Avent, mais à mon avis plusieurs centaines d'euros. Et à chaque jour, elle ouvrait un nouveau sextoy. C'était incroyable. Bon, il y avait des trucs un peu nuls, mais il y avait des trucs, tu fais ah.
Bah, en même temps, sur un calendrier de l'Avent de 24, tu peux pas avoir genre 24 trucs fous. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais il y avait un truc, tu sais, pour se laver la chatte, alors qu'on sait très bien que la chatte n'a pas besoin d'être lavée. Donc, il y avait des trucs un peu limites, tu vois.
Mais il y a plein de trucs. Moi, c'est ça qui me fait peur aussi dans ce secteur-là. Parce que les sextoys, c'est grave cool. Et t'as après tous les produits accessoires qui viennent avec, tu vois. Et moi, c'est là, enfin, comme tu dis, les nettoyants intimes. Alors qu'on sait, et je pense que c'est important à répéter, que on s'auto-nettoie et que c'est génial et que la douche, c'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, même sans parler de douche vaginale, mais juste de douche normale de ton corps entier, il n'y a pas de problème. Et que si tu es une personne civilisée, généralement, tu te douches logiquement tous les jours pour le bien-être de toi et des gens qui t'entourent. Ça, c'est une dédicace à tous les mecs qui se lavent pas la teub, tu vois, par exemple. Ce qui est un vrai problème. Non, mais ce qui est un vrai problème, voilà, de société, j'ai envie de dire. C'est un vrai problème, vraiment, Marie. C'est un vrai problème. Les hommes et l'hygiène, mais c'est très problématique. Mais toute cette gamme, un peu, que ce soit tous les lubrifiants de la terre qui puissent exister avec des colorants artificiels dedans. Tous les baumes que j'ai pu voir, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas, parce que ça me fait flipper, espèce de baume soit apaisant pour la vulve sensible. Alors ça, si c'est apaisant après que t'aies eu beaucoup de rapports sexuels, et que, pourquoi pas, mais bon, voilà, que ça cache pas une mycose non plus, tu vois, ou un herpès, et qu'en fait tu l'as pas détecté, enfin c'est compliqué. Et tout ce qui est aussi des espèces de baumes aphrodisiaques ou comment ça s'appelle qui augmente la sensibilité en fait au niveau des nerfs, du clitoris, etc. Je suis un peu genre est-ce qu'il y a besoin, tu vois, de rajouter autant de produits sur quelque chose qui enfin qu'on maltraite déjà beaucoup au final, tu vois, entre les savons, l'épilation possiblement, les sous-vêtements qui sont pas forcément en coton, enfin le fait d'être enfermé dans des jeans, enfin tu vois, genre comment va la flore vaginale des Françaises? C'est ça, tu vois, la question que les gens se posent. C'est aussi toutes les catégories d'accessoires aussi à côté, quoi.
Bah, il y avait un truc dont je voulais parler, c'est ma vestibulodynie. Donc, en fait, j'ai une maladie... c'est pas vraiment une maladie. J'ai une inflammation, une douleur chronique, une inflammation chronique de la vulve. Et il y a une partie de la vulve qui s'appelle le vestibule. Donc c'est juste à côté de l'entrée du vagin. Et donc en fait, j'ai eu beaucoup de cystites et de mycoses à cause du mauvais sexe, à cause de la pénétration, à cause de plein de choses. Et à force de prendre des antibiotiques, des antimycosiques, enfin, plein de produits hyper chimiques, il y a mes nerfs de la vulve, du vestibule qui sont devenus fous. Et depuis 3 ans, en fait, j'ai mal en permanence à cette partie-là. Ce qui fait que bah au début je pouvais plus faire de pénétration où j'avais mal. Enfin je pouvais, en fait, c'est pas comme du vaginisme où les muscles se contractent, il y a aussi une histoire de périnée contractée, mais je pouvais quand même faire de la pénétration. Mais en fait après j'ai arrêté la pénétration, puis en fait ça s'est déplacé sur les vêtements. Là par exemple, on enregistre ce podcast, je suis en jogging, mais même tu vois, la culotte, le jogging, ça me touche, donc ça peut me gêner. Je peux plus mettre de jeans, je peux plus mettre tous les vêtements en fait qui serrent, les collants et tout. Je peux juste mettre des leggings, des joggings et encore, et des jupes. Donc en hiver, c'est relativement problématique. Et donc pour ça, on te dit voilà, c'est dans la tête. C'est dans la tête, donc je suis allée voir une sexologue. Après, on te dit fais des séances de kiné pour détendre le périnée. Donc j'ai détendu le périnée, mais en fait, comme c'est les nerfs qui sont tout le temps en mode alerte rouge, parce que forcément ils veulent plus de cystite ni de mycose, bah en fait le problème n'est pas réglé, et on est des milliers de personnes comme ça en France. Et en fait, après, t'as l'opération, donc on va t'enlever un bout du vestibule, mais après, t'auras des cicatrices, donc c'est même pas une... Maintenant, il y a des lasers, on va t'injecter du Botox, enfin, il y a 10 000 solutions, mais en fait, c'est hyper rare... C'est souvent du hasard quand on en guérit, en fait. Ça arrive comme ça, du jour au lendemain, je sais pas, tu tombes enceinte, tu guéris, tu rencontres quelqu'un qui t'excite, tu guéris, t'as un gros trauma dans ta vie, tu guéris. Mais moi, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça n'a fait qu'empirer les choses. Du coup, ça, c'est très important pour expliquer la chute totale de libido. C'est-à-dire quand je disais que la sexualité, c'est mon sujet de conversation favori, c'est le truc que je préfère faire dans le monde, dans la vie. En fait, je ne peux même plus avoir de sexualité parce que ma libido a complètement disparu à cause de cette vestibulodynie. C'est un truc, c'est un handicap, en fait. Je la sens tout le temps et des périodes du mois où c'est de plus ou moins insupportable. Je peux plus mettre de tampons, de cups, même les serviettes hygiéniques ou les serviettes lavables, je les sens. Quand je rencontre quelqu'un, si on fait de la pénétration, je sais que je vais souffrir. Enfin, tu vois, d'associer la sexualité à la souffrance, même pour utiliser des sextoys. Si c'est des sextoys genre extérieurs, ça va, mais je peux rien faire rentrer ou rien qui s'approche de cette zone. Et le seul truc qui m'a soulagé un peu, c'était de prendre des antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, ça endort les nerfs. Mais en fait, c'est un truc de fou de se dire, en fait, je suis à 1% de mes capacités. Et bon, j'ai encore un peu de libido, je me masturbe, voilà, mais ouais, c'est plus comme avant et c'est vraiment pas facile. Voilà, je sais pas si t'en as déjà entendu parler ou si t'as eu déjà des...
C'est vrai que j'avais été un peu sensibilisée au vaginisme il y a quelques années, mais ce truc-là, c'est... Non, mais la preuve, c'est j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et je pense qu'il y a, plein de personnes qui souffrent de mots comme ça, et en fait, tu sais pas, tu vois, genre, tu sais pas, et c'est terrible d'associer une partie de ta sexualité à de la douleur, en fait, à de la souffrance, parce que ça devrait pas être comme ça, tu vois, ça devrait être un moment chouette et de fun et tout, et puis surtout que, comme tu dis, ça a un impact aussi psychologique. Parce que si t'as mal, t'as pas envie, tu vois, et genre, c'est un cercle aussi vicieux où t'as pas envie de créer de la douleur, tu vois, tu vas pas te forcer. Donc c'est cette question-là. Mais du coup, est-ce que tu en parles aux gens avec qui tu couches ?
Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. En gros, le fait que ça s'appelle vestibulodynie ou vestibulite ou vulvodynie, enfin, ça a différents noms, mais que personne ne retient, ça aussi alimente le tabou et le fait que personne ne retienne le nom. En fait, j'étais allée voir une sexologue et un jour, elle m'a dit « Mais c'est normal d'associer la pénétration à la douleur. Tu sais, vous savez, un sexe qui pénètre un vagin, c'est forcément douloureux, hein, ça a forcément fait mal à un moment donné ou à un autre à une femme. » Et j'étais en mode... Donc en gros, quand on a un vagin, il faut forcément qu'on souffre dans la sexualité. Enfin, tu vois, il y a tout ce mythe aussi, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Et du coup, t'as plein de personnes qui ont mal à la vulve, ou au vagin, ou à n'importe quelle partie de l'appareil génital, et qui pendant des années ne vont pas le dire, ou même moi, tu vois, si j'avais mal, je sais pas, à la main, je pense que j'aurais déjà trouvé une solution, parce qu'il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus de médecins, que je pourrais en parler avec mes parents par exemple, ou avec mes amis plus facilement, et ils prendraient ça plus au sérieux. Le fait que personne ne m'en parle, si j'en parle pas parce que ça se voit pas et parce que c'est tabou, ça fait aussi que le truc, ça fait 3 ans que je me le traîne, alors que si c'était à n'importe quel autre endroit de mon corps, peut-être que je serais allée plus loin. Enfin, tu vois, là, je suis en train de me dire que je vais recommencer à avoir des médecins, mais c'est vraiment chiant. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, en fait, j'en parle, sauf quand vraiment je suis trop bourrée, que j'ai juste envie que ça se finisse et que j'ai la flemme, mais j'en parle, mais en fait, c'est abusé. Genre, une fois, j'en ai parlé, tu vois, j'étais en train de coucher avec 2 mecs en même temps, et à un moment, je me retrouve qu'avec un seul, et donc je leur avais dit que j'avais une vestibulodynie, que je pouvais pas faire de pénétration, et le mec m'a enculé, tu vois, genre, ah, c'est pas grave, ça passe pas par le vagin, on va passer par les fesses. Non, mais moi, j'adore ça, tu vois, j'étais totalement consentante, mais c'est-à-dire que... Ils vont pas me forcer à me pénétrer vaginalement, mais c'est pas un truc très important pour eux, et alors que je sais que les périodes aussi où j'avais moins mal, c'est par exemple si un mec me fait des super cunis ou juste m'excite par message, tu vois, ça peut avoir un vrai, parce que forcément quand ma chatte est excitée, en fait je vais plus avoir de douleur, mais pendant plusieurs semaines. Donc c'est vraiment le fait que, enfin, c'est éphémère, mais je sais que si je tombe sur une personne qui est vraiment attentive à mon plaisir et à ma douleur, parce que aussi les mecs ils me disaient mais si je te fais mal tu me le dis. Et du coup on baise et puis à la fin ils me disent mais alors je t'ai fait mal, t'as rien dit? Je dis bah oui j'ai eu mal, mais en fait c'est ça qui est un peu chiant avec la vestibule d'Uni, c'est que ça empêche pas de jouir, d'avoir du plaisir en même temps, tu vois, c'est juste une petite gêne comme si on te grattait en permanence à un endroit. Et du coup les mecs ils sont en mode mais t'aurais dû me le dire. Je dis mais enfin, pendant qu'on baise, je vais pas dire toutes les 5 minutes tu me fais mal, parce qu'en fait j'ai mal tout le temps, enfin si tu me pénètres de base, enfin tu vois, et même si tu me touches, donc en fait c'est hyper handicapant parce que ça m'empêche pas totalement d'avoir une sexualité, mais ça m'empêche d'être à l'aise vraiment.
Ouais c'est ça, d'être à l'aise au final avec, c'est ça, si, comme tu me dis, t'as un truc, t'as l'impression qu'on te gratte un peu tout le temps, bah tu peux pas être forcément à l'aise dans ta sexualité, enfin genre c'est très problématique, tu vois, enfin... Et je pense que ça, c'est, ça s'applique aussi sur plein plein d'injonctions qu'on a fait porter aux femmes. Et comme tu dis, à partir du moment où ça se voit pas, tu vois, c'est comme le fait de avoir une vulve normale. J'avais vu passer un post Instagram là-dessus sur toutes les vulves sont différentes. Et je trouve ça hyper intéressant parce que dans les manuels de bio qu'on avait au collège-lycée, t'as une forme de vulve, mais après, dans la réalité... tu te regardes, tu te connais et tu peux te poser des questions. Et j'avais vu, je crois que c'est notamment en Asie, au Japon et en Corée, il y a énormément d'opérations pour rétrécir les grandes lèvres, enfin faire en sorte en tout cas que ta vue soit une espèce de symétrie en fait, ou énormément d'opérations chirurgicales. Donc j'ose même pas imaginer la cicatrisation que ça demande, le temps, la douleur que ça doit être. Des bandages et tout, pour ressembler à quelque chose qui potentiellement n'existe pas ou existe peu, ou tu vois, et c'est pareil pour parfois pour la poitrine, tu vois, ou pour ce qu'on considère être comme étant sexuel chez une femme. Il y a ça aussi, qu'est-ce qui est sexuel, et c'est les fesses, tu vois, genre les fesses, la poitrine, ce genre de les lèvres posées, enfin petites, grandes et en haut ou en bas, tu vois, mais c'est comment tu envisages ce qui est sexuel ou pas. Et d'ailleurs en parlant de ça, on aimerait bien, on a un projet avec Simon, moi qui me tient beaucoup à cœur, qui est on va faire un épisode en avril prochain sur le corps, et avec Simon on a entrepris un projet où on a envoyé des textos à tous les gens avec qui on avait couché. Enfin, on aimerait bien faire ça. Moi, j'ai commencé à le faire. Simon, il l'a pas fait encore. Mais et en fait, pour poser une question simple, est-ce que tu me trouves sexy? Et si oui, pourquoi? C'est quoi les raisons en fait? C'est quoi les raisons pour lesquelles il y a eu un moment d'attraction sexuelle entre toi et cette autre personne? Et les réponses que j'ai reçues m'ont étonnée, comme dirait un article. La septième va vous étonner. Mais énormément, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de traiter, sur comment, en fait, on s'imagine énormément de choses et on nous fait croire énormément de choses aussi sur tu vas pouvoir avoir une sexualité que si tu fais ça ou tu es comme ça, etc., etc. Et qu'en fait, la réalité est tout autre. Et c'est hyper intéressant. Genre, c'est vraiment, c'est fascinant.
Ouais, mais inversement, si je recevais un texto d'un mec avec qui j'ai couché qui me demande pourquoi j'ai couché avec lui, qu'est-ce qui m'excitait chez lui, je serais en mode « Bah, rien, j'avais juste envie de baiser. » Non, mais tu vois, il y a un truc aussi, les mecs, ils font... Enfin, souvent, les mecs ne font aucun effort et je suis beaucoup moins difficile. Tu vois, je vais prendre un peu le premier qui vient juste parce qu'il est sympa ou drôle. Alors que nous, peut-être qu'ils t'ont répondu des trucs super élaborés, genre « J'adorais la façon dont tu clignais tes yeux et tout. » Alors que moi, enfin, je me rappelle même pas de la gueule du mec, donc je vais se dire « Ah, j'aimais bien tes petites bouclettes.
» Non, mais oui, c'est vrai. Mais ce truc-là d'effort... Tu vois, le truc d'effort dans la sexualité. Genre, vraiment, c'est ce truc-là des mecs qui puent de la teub. J'ai eu cette conversation avec un mec avec qui j'ai couché il y a trois jours, je sais plus. Quelques jours. Et où le mec m'a dit, en arrivant, j'ai fait un effort, je te jure. Il m'a dit, j'ai fait un effort, j'ai pris une douche avant de venir. J'ai enlevé mes lunettes de cette manière-là. J'ai dit, alors, moi, aujourd'hui, j'ai passé du temps à m'épiler. Et ce à quoi il m'a dit non, mais moi je m'en fous les pièces. Non, non, non. tu parles, mais on sait qu'au final, bon voilà, j'ai passé le temps à m'épiler. J'ai choisi une belle lingerie dont chaque ensemble coûte potentiellement à peu près 60 balles, chaque pièce. J'ai potentiellement lavé mes draps. J'ai pas cendré dans tout mon appart, donc possiblement j'ai fait un peu de ménage, tu vois. Ce jour-là, j'avais fait à manger. Donc je lui avais fait à manger, enfin je nous avais fait à manger, mais qui avait ramené deux pauvres bières, on va se calmer deux minutes. Et j'avais pris une douche, je m'étais maquillée, je m'étais lavé les cheveux. Et encore, je pense qu'en termes d'effort, je suis pas allée à mon maximum. Je suis allée bien loin, bien plus loin dans d'autres situations. Là, voilà. Et donc, en fait, si on calcule le temps, l'énergie et le coût financier de ce que ça représente, en fait, mais j'ai perdu 2 heures dans ma journée. J'ai perdu 2 heures dans ma journée, alors que j'aurais bien plus à faire pour gagner ma vie et faire des projets perso et des trucs qui m'intéressent et voilà. Et c'est pas perdu parce que il y a aussi une rétribution de se sentir belle potentiellement, tu vois, de sentir validée dans le regard de l'autre, etc. Mais il n'empêche que l'effort des mecs, ça va être éventuellement mettre un calbar propre et prendre une douche et se laver les mains. C'est en termes de ratio temps-énergie, on est quand même pas ouf, quoi. Éventuellement ranger leur appart s'ils sont un peu chouettes, mais ça arrive pas tout le temps. Voilà, donc je me dis, mais rien que ça, en termes d'effort en fait qu'on met dans la sexualité, puis la contraception aussi, rien que la contraception en fait, rien que la contraception, c'est un rapport temps, douleur, énergie qui est énorme. Enfin, acheter des préservatifs, quand là je suis redevenue célibataire, je me rappelais plus, ça coûte si cher, ça coûte tellement cher. Tu veux un truc un peu de qualité et pas trop dégueulasse qui... Enfin, voilà. Les capotes, ça coûte cher. Prendre une contraception, ça a des effets terribles sur ton corps. Enfin, potentiellement, dépendamment de comment tu le ressens. Mais je me dis, mais c'est beaucoup. On prend beaucoup, quoi. Genre, le sac à dos est lourd, quoi. Le sac à dos est lourd dans tout ce qu'on va faire pour avoir des rapports sexuels où potentiellement, peut-être, tu vas même pas kiffer. Et potentiellement, tu vas peut-être se sentir mal à l'aise parce que les mecs qui font des réflexions sur ton corps, ça arrive aussi, tu vois. Des moments où ils outrepassent le consentement aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de... En fait, le ratio coût-bénéfice, tu vois, il est parfois... Enfin, souvent même, je trouve qu'il est clairement en note défaveur, quoi. Et c'est quelque chose qui est... très compliqué, et j'ai pas envie de parler en termes de coût économique, tu vois, seulement, mais en termes de temps, de mental, il y a plein de choses, en fait, mais la sexualité, je pense, prend beaucoup sur le temps, l'énergie des femmes dans un contexte hétéro, en tout cas, tu vois.
Ouais, et puis si tu rajoutes mes douleurs, que ce soit vestibulodynie, cystite, mycose, bah, moi, ça fait 9 mois que j'ai arrêté de baiser. Et donc, c'est ce que je disais au début de l'épisode, pour plein de raisons, bah, tu viens de les énumérer, quoi. Genre, ce n'est pas rentable. Alors oui, quand je me couche le soir dans mon lit, que je suis toute seule et que j'aimerais bien faire un câlin à quelqu'un ou embrasser quelqu'un, je parle même pas de sexualité. Enfin, même si je considère qu'embrasser quelqu'un, ça peut être déjà sexuel. Mais ouais, j'en souffre, mais pas au point de souffrir en ayant du mauvais sexe. Enfin... Avec tout ce que je mets comme investissement émotionnel, parce que moi en plus je suis dépendante affective, donc c'est-à-dire que je tombe entre guillemets amoureuse au bout de 2 heures, donc je souffre énormément dans chacune des relations quand le mec me traite mal, et d'autant plus que je suis dépendante affective, donc je vais souffrir des fois pendant plusieurs mois, quand bien même on s'est côtoyé que pendant 3 semaines. Enfin voilà, c'est pas du tout rentable, alors que je pourrais être en train de faire plein d'autres trucs. Mais voilà, c'est ce que je me demande en ce moment, c'est à quel point j'ai vraiment besoin de sexualité, à quel point j'ai vraiment besoin de contact charnel, d'amour, de tendresse. Est-ce que je peux pas avoir ça avec ma sœur ou avec mes amis? Voilà, est-ce que c'est dans ma tête le fait de vouloir avoir quelqu'un dans mon lit, ou est-ce que c'est vraiment un besoin physique? Enfin, tu vois, je me pose plein de questions sur ça parce que Enfin, quand je vois mes amis en couple, je n'ai pas du tout envie d'être à leur place. Quand je vois le mauvais sexe, j'ai pas du tout envie de réinvestir là-dedans. Et de temps en temps, on tombe sur une belle rencontre, mais c'est pas du tout la majorité, quoi. Et si c'est pour avoir 5 minutes de plaisir et après bader pendant 2 mois parce que la personne m'a maltraité. Voilà. Mais du coup, il faut sortir de l'hétérosexualité. C'est juste ma conclusion.
Mais grave, c'est... Cette réflexion-là sur notamment sortir de l'hétérosexualité, elle est hyper intéressante parce que j'en ai beaucoup parlé avec des copines féministes de se dire à quel degré en fait on accepte et à quel moment donné on va passer cette barrière qui est de dire là maintenant stop, là maintenant c'est... Tu vois ce que je veux dire? Genre là maintenant c'est fini. Et ce qui est assez intéressant, j'en parlais avec une autre copine qui est grosse aussi et on a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Sur en tant que meuf grosse aussi, comment on nous avait intériorisé à accepter le mauvais traitement, tu vois. Et comme je pense beaucoup de catégories de personnes, on a fait intérioriser que en fait c'est ok si on te traite mal parce que c'est ce que tu mérites ou en tout cas le seul truc qu'on peut t'offrir. Et en termes de sexualité, c'est hyper intéressant parce que en tant que meuf grosse, en tout cas, ma génération, on a été élevée avec très peu de modèles de représentation. Beaucoup plus que la génération d'avant, bien sûr. Mais les modèles que j'ai maintenant, ça n'y était pas quand j'étais ado. Tu vois, des séries comme Shrill, comme Euphoria, enfin, des modèles un petit peu comme ça, des chanteuses comme Lizzo, tu vois, comme Isolde, etc., comme Vendredi sur Mer, November Ultra, etc., d'avoir des modèles de meufs grosses qui avaient une sexualité et qui étaient dont la grosseur n'était pas le sujet central de leur vie. C'est vrai qu'elles vont faire plein d'autres choses à part le fait d'être grosse. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et du coup, tu te construis en fait dans cette idée et c'est typiquement l'idée de Monica dans Friends, tu vois. C'est quand elle est grosse, elle est dégueulasse et elle n'est pas en contrôle d'elle-même, etc. Elle n'a pas de sexualité, elle n'a pas de vie affective, tout le monde la rejette. Et il n'y a que quand elle est mince où elle arrive à avoir une sexualité. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu te construis sur des modèles là-dessus, à partir du moment où tu commences à avoir une vie sexuelle, tu l'as tellement intériorisée que la base du truc, c'est de dire si quelqu'un couche avec moi, je suis déjà, mais chanceuse de ouf. Si quelqu'un veut bien, me donne ce privilège, tu vois, de voir sa teub, quoi. Et du coup... tu acceptes aussi le mauvais traitement ou en tout cas tu ne mets pas des mots sur le fait que c'est du mauvais traitement, tu dis que c'est voilà, c'est comme ça en fait, c'est comme ça et ça va se passer tout le temps. Et il y a beaucoup de copines grosses ou non avec qui j'en ai discuté, à partir du moment où tu rencontres des gens avec qui ça se passe bien et avec qui t'as des relations saines, en fait tu comprends tu vois, c'est en ayant le mieux que tu comprends le pire. Et où j'ai plein de potes que j'ai vus dans des relations, mais. Enfin, toxiques qui n'en pouvaient plus. Et en ayant rencontré quelqu'un d'autre, elles sont en mode, mais en fait, j'ai passé des années dans l'obscurité, quoi. Et en termes de sexualité, moi, ça a été pareil. Et c'est. Ça a dû aller, malheureusement, jusqu'à un traumatisme pour que je remette en question tout ça. Et que je déconstruise un peu tous les trucs un à un, avec de la psychothérapie, avec beaucoup de contenu militant, avec énormément de choses, mais pour pouvoir se réapproprier la sexualité de manière bienveillante et positive, etc. Et en tant que meuf grosse. Et la grossophobie sur les applis de rencontre, par exemple, tu vois, et dans la sexualité, c'est un truc, mais c'est flippant à quel point c'est présent et c'est soit de la fétichisation, et ce qui est pour moi tout aussi problématique. Moi j'ai souvenir d'un mec, on a bu un verre, ça se passerait bien, un mec m'invite chez lui, on va vers chez lui, et où le mec bras dessous me dit, mais dans une détente la plus complète, me dit ah c'est rigolo parce que j'ai jamais couché avec une grosse. Et ton monde il s'effondre en fait, ton monde autour de, enfin tu vois, genre les yeux dans les yeux au plus grand des canzers, quoi. C'est vraiment genre, tout s'effondre. Et là, à ce moment-là, c'est... Enfin, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais accepté et j'aurais dit oui. Ah, vas-y, on y va, on va niquer, et puis voilà. À ce moment-là, j'ai décidé de partir. Mais, il y a quelques années, je l'aurais pas fait parce que j'aurais dit, ouais, mais bon, quand même, il y a ce mec-là, il accepte de coucher avec moi, ok, voilà, tu vois. Donc il y a tout ce truc-là de, d'intériorisation aussi, d'injonction et de plein de trucs. Et dans la sexualité, ça se ressent parce que c'est le moment où t'es quand même très vulnérable, quoi. T'es quand même à poil avec quelqu'un potentiellement que tu connais pas de ouf. Donc c'est assez... t'es dans un espace de vulnérabilité, en fait.
Ouais, non, mais c'est vraiment tout le truc de « je suis une féministe radicale, je vais dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut se faire respecter, nanana. » Et quand je suis dans une situation hétérosexuelle, je vais me faire vraiment traiter comme de la merde. Et moi, toi, t'es partie à ce moment-là quand le mec a eu cette phrase. Mais tu vois, moi, je suis même pas sûre que je partirais. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de « c'est trop cool, quelqu'un s'intéresse à moi, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que j'ai de la valeur. » je vais peut-être avoir 5 minutes de plaisir sur les 3 heures où on va baiser, c'est bon quoi. Oui, il est con, mais peut-être qu'il a d'autres qualités. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que j'accepte des trucs. Ouais, j'accepte des trucs que je n'accepterais jamais de mes parents ou de mes amis. Et du coup, bah maintenant j'ai dit stop. Mais du coup, c'est un peu radical, tu vois. J'ai plus du tout aucun contact avec aucun homme. Enfin, tu vois, c'est un peu triste.
C'est radical, mais en même temps, enfin. Moi, j'en suis passée par des phases où, pas du tout pour les mêmes raisons, tu vois, où j'ai arrêté. Parce que y a eu des périodes dans ma vie où j'avais 5 dates Tinder par semaine et quasiment tout autant de rapports. Et en fait, ça me rendait pas heureuse, au contraire, ça me rendait très triste. Et j'ai compris que je cherchais beaucoup la validation dans le regard de l'autre. Parce que on est dans une société qui valide pas forcément mon corps à moi comme étant valide. Avec le truc de la santé, le truc du sport, le truc de l'attractivité possible, le truc de pas trouver des vêtements à ta taille, de, enfin, plein de trucs qui forment la grossophobie, et heureusement on en est beaucoup plus alerté maintenant. Mais ouais, du coup dans la sexualité c'est un truc, y a Marie de Boer qui a fait un super doc il y a pas longtemps, qui, je sais plus comment il s'appelle son doc, et dedans, elle parle de la sexualité. Elle parle de la sexualité quand on est une personne grosse. Et elle dit notamment, c'est quoi les positions dans lesquelles tu n'écrases pas la personne avec qui tu es. Et en fait, ce truc-là, moi, c'est une angoisse, mais perpétuelle, où je me dis, un jour, il y a quelqu'un qui va mourir par la force de mon poids. Alors qu'en réalité, je sais que c'est pas le cas. En soi, je vais... Ou alors, faut vraiment que j'y aille et que... je m'assois sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure, tu vois. Mais ça reste quand même une angoisse. C'est comme il y a certaines positions que moi, avec le corps que j'ai, je fais 1m55 en plus, je ne peux pas faire. Et c'est physique, en fait. C'est dans le sens où je suis pas assez souple. Je suis pas assez souple. J'ai un peu plus de gras que la moyenne. Enfin, voilà, il y a des configurations qui sont pas confortables. Et moi, je refuse de me contorsionner pendant 8 heures, voilà. Mais du coup, sur la sexualité, ouais, et puis il y a tout ce moment où tu te déshabilles aussi, tu vois. Genre, les mecs, ils font des jugements sur ton corps, tu vois. Et genre, ça, j'ai jamais compris dans quel univers c'était possible qu'une personne face à qui tu te mets à nu, mec comme meuf d'ailleurs, fasse des réflexions sur le corps que t'as. Genre, à quel moment donné c'est admis, tu vois, genre, quel moment donné tu dis que c'est ok de faire des commentaires, enfin, je comprends pas, ouais, c'est très, très questionnant.
Bon bah voilà, merci, c'est déprimant.
Non, un mot d'espoir, Marie, ok, un mot d'espoir, c'est quoi, tu trouves, ok, le truc le plus enthousiasmant pour toi de la sexualité quand on est célibataire. C'est quoi le truc le plus kiffant ?
Non, mais là, c'est vrai qu'on a fini sur un... Le problème, c'est qu'on en revient toujours à parler... on est parti sur parler du sexe en solo, mais en fait, on en revient toujours à parler des relations hétérosexuelles. Donc, c'est sûr que c'est déprimant. Tout le reste est enthousiasmant, en fait. Pour moi, le mauvais sexe, ça peut être que avec quelqu'un. J'ai jamais eu de mauvais sexe toute seule. J'ai jamais attrapé. Je me suis jamais fait mal à moi-même. J'ai jamais attrapé d'infection urinaire toute seule. Et je voulais juste finir en parlant d'une expérience incroyable. C'est j'ai fait un tour du globe en cargo. J'ai parti 4 mois faire le tour de la planète sur un bateau et j'étais toute seule dans ma cabine. Et en fait, bah, j'avais énormément de temps pour me masturber, pour me faire des massages, etc. Et en fait, j'ai réussi à éjaculer parce que je savais qu'il fallait appuyer à l'intérieur du vagin sur ce qu'on appelle le point G vers l'intérieur. Et je savais qu'au moment où j'ai envie de faire pipi, bah, fallait juste aller au-delà de cette peur. Et je me suis mise à éjecter des énormes jets. Bon, j'étais dans ma douche vers la paroi et j'étais en mode « Waouh ! J'arrive à faire ça, mon corps il arrive à faire ça !» Et genre, c'est trop bizarre que jamais aucun mec, par maladresse ou par talent, n'est arrivé à faire ça ou que même moi, j'ai jamais eu la curiosité de faire ça avant, alors que c'est juste... trop cool. Et après, quand j'ai eu mes règles, je l'ai refait et du coup, le liquide était rose. Tu vois, parce qu'il doit y avoir un truc avec les règles qui se mélangent. Enfin, c'est un truc de ouf. Et t'as l'impression que tu te pisses dessus, mais ça, le jet est tellement puissant et quand tu le sens, il sent pas du tout l'urine. Voilà, je voulais juste raconter ça parce que ce qui est bien dans la sexualité... Ouais, ce qui est bien dans la sexualité en célibataire, c'est d'expérimenter des trucs. Et tout à l'heure, je disais que j'expérimentais pas trop de trucs en ce moment parce que j'ai ma vestibule Houdini, parce qu'on est en confinement et que, de toute façon, il n'y a pas d'injonction à expérimenter. Et tout le monde ne doit pas éjaculer. Et de toute façon, quand j'éjacule, j'ai pas l'impression d'avoir un orgasme. Enfin, je pense que c'est deux choses différentes. Dédicace à tous les mecs qui... éjacule, ça veut pas forcément dire qu'on a un orgasme. Et en même temps, c'est toujours la puissance du corps de dire « Ah, en fait, y a plein de trucs qui sont possibles et on explore peut-être genre 1% de toutes nos capacités. » Et du coup, voilà, j'ai beaucoup d'espoir.
Mais oui, faut, je pense, avoir beaucoup d'espoir et je pense que la sexualité en solo, en fait, elle peut être... Tu peux tellement apprendre sur toi-même et sur le plaisir en général, tu vois, et c'est... C'est, je pense que j'ai plus appris sur moi-même et mon plaisir de toutes mes années de célibat que le peu de temps où j'étais en couple. Le seul truc que ça m'a, ma sexualité quand j'étais en couple, c'est que j'ai développé quelque chose avec quelqu'un sur du long terme, c'est tout. Mais après, en termes, dans d'autres trucs, genre tu lis, enfin tu peux lire beaucoup, t'intéresser beaucoup. Et on avait une invitée qu'on a eue dans le podcast qui a dit un truc hyper intéressant, qui a dit il y a plein de gens qui sont pas intéressés par la sexualité, mais pas par le fait de pas faire du sexe, tu vois, ça c'est correct aussi, mais par le fait de, je mets beaucoup de guillemets à ça, de développer sa sexualité, tu vois, genre de d'apprendre à faire certains trucs, par exemple, tu vois, savoir quel point il faut appuyer pour faire une éjaculation féminine, tu vois, apprendre des petits tips comme ça. Elle dit mais il y a plein de gens ça les intéresse pas et ça c'est ce qu'on appelle de l'érotisme au sens le plus littéral. Elle dit il y a des gens pour qui c'est un hobby. Et genre, ça peut l'être un hobby et ça peut être vraiment une partie de plaisir pour le coup d'en apprendre plus sur soi, sur la sexualité en général, sur d'autres types de pratiques qu'on a peut-être envie d'essayer tout seul ou avec d'autres gens. Et c'est ouf en fait. Genre, et quand elle a dit ça, ça a résonné très fort. Je me suis dit en fait, la sexualité ça peut être un hobby au même titre que faire du tricot, faire de la peinture et tout. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand t'es célibataire, t'as le temps de faire ça. Genre, t'as statistiquement un peu plus de temps pour le faire. Et surtout dans les périodes confinées actuelles, ça peut être un temps cool, quoi. Genre, pas forcément à rentabiliser ou productif et tout, mais juste un temps où, voilà, c'est dans le flow, quoi, tu vois, genre... C'est d'expérimenter plein de trucs, quoi.
Ouais, et inversement, il y a des gens que ça intéresse pas. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, tous ces mecs avec qui j'ai fait du mauvais sexe, où c'était juste de la pénétration et où le mec s'endort après au bout de 20 minutes, en fait, pour moi, ces personnes-là n'aiment pas le sexe. Parce que le sexe, c'est prendre du temps, c'est comme tu dis, expérimenter. Et c'est ok de pas aimer le sexe, mais du coup, ils mettent toute la pression dans le fait de bander, d'avoir une éjaculation, et ils s'en foutent de la personne en face, parce que finalement, eux, ils veulent juste prouver qu'ils sont des hommes et qu'ils ont baisé. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le sexe, que ça n'intéresse pas, que c'est juste pour se valider, pour faire partie de la société, parce qu'il faut le faire. Et c'est extrêmement tabou le fait que dans des couples, il y a des gens, même de mon âge, qui ne baisent pas. Enfin. Voilà, bon bref, j'ai un peu contré la fin positive, mais c'est ok aussi, mais c'est juste que du coup, je fais du sexe avec des gens qui n'aiment pas ça, donc ça me saoule.
Oui, t'as envie d'être sur le même niveau de... Enfin, de... J'allais dire de... Ouais, d'amour aussi de ce que tu fais, quoi. Enfin, c'est...
Moi, j'ai pas envie de baiser pendant... J'ai pas envie de baiser pendant 5 minutes, en fait. Et moi, les mecs qui jouissent et qui s'endorment direct... Enfin, moi, je comprends pas. Je suis en mode, mais attends, là, on est en train de baiser. Genre, on peut faire ça toute la nuit. Pourquoi tu dors? Tu dormiras demain ou après-demain? Tu vois, je ne comprends pas. Genre, c'est tellement extraordinaire. Et les fois où j'ai fait ça toute la nuit, il n'y a pas forcément de pénétration, mais tu vois, tu fais des trucs toute la nuit, je suis en mode, mais c'est ça la vie, quoi. Et du coup, bah, on a le droit de ne pas être sur la même longueur d'onde, mais enfin, tout ça, c'est une histoire de communication, en fait. Le fait de ne pas discuter avant de ce qu'on veut, c'est genre... Moi, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je vais direct demander, tu veux faire quoi comme sexe? Parce que des fois, les mecs sont juste en mode... Ah, bah, j'ai très envie de te pénétrer. Et bah, là, je dis bye bye. Et des fois, les mecs, ils sont en mode, j'ai trop envie de te faire un cuni. Là, je suis en mode, on va réfléchir. Enfin, tu vois, il y a.
C'est envisagé aussi. Et c'est hyper intéressant. Il y a de plus en plus d'applis un peu spécialisées cul. Et je trouve ça hyper intéressant parce que les gens qui sont là-dessus sont beaucoup mieux informés de ce qu'ils aiment pas et de ce qu'ils attendent. Souvent, c'est des gens de communauté BDSM, libertine, etc. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on ait envie d'en faire ou non, tu vois. Mais c'est des gens avec qui j'ai eu des discussions tellement respectueuses et tellement détaillées. Et c'est des gens, vraiment, ils savent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aimeraient expérimenter, mais pourquoi pas avec quelqu'un avec qui ils ont en confiance et tout, ou tout seul, etc. Et c'est hyper rafraîchissant de savoir qu'en fait, ça existe. Et comme tu dis, je pense que oui, les personnes, enfin, en tout cas les hommes qui sont centrés sur la pénétration comme étant la seule voie possible, c'est des gens qui n'aiment pas le sexe. Et parce qu'en plus, généralement, par exemple, c'est des gens qui ne connaissent pas leur prostate. Tu vois, la question de la prostate, moi, c'est mon nouveau cheval de bataille dans la sexualité depuis quelques mois, une petite année. Et je trouve que c'est assez. Ça indique quelque chose aussi, tu vois, sur la sexualité. Masculine, c'est le fait de refuser ne serait-ce que d'approcher de cette zone-là comme si c'était un signe de perte de virilité. Et comme je leur dis, moi je leur dis, la prostate, tu t'aimes, t'aimes pas, c'est pas à moi de te dire ce que t'aimes ou t'aimes bien, mais juste pense que si t'as pas envie d'essayer, pense que c'est une pièce de ta maison que tu n'utilises pas. C'est con en fait, t'as une pièce dans ta maison, tu l'as jamais ouverte, t'as envie de la laisser comme ça, y a pas de problème, mais ça existe, tu vois, sache que ça existe. Et je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou qu'il y ait autant de réticence là-dessus, quoi.
Yes. Merci beaucoup, Pauline, pour cet épisode crossover. Alors, pour écouter Comics en MST, je vais mettre le lien du podcast dans la description de cet épisode. Alors, il y a plein d'épisodes sur la charge sexuelle, sur le porno, sur la pénétration, sur les applis de rencontre, sur l'éducation sexuelle qui sont déjà en ligne. Je les ai moi-même pas encore tous écoutés, donc je vais le faire tout de suite sur mon application favorite qui s'appelle Podcast Addict. Voilà, cher auditeurice, si tu as aimé cet épisode crossover spécial sexe, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologamie et Comics sans MST sur ton application de podcast. Et tu peux aussi le partager avec tes proches, ce serait très cool. Merci et au mois prochain. Moi, je reviens le premier mardi de chaque mois avec un ou une nouvelle invitée célibataire. Si tu veux participer à Sologamie, écris-moi. Je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et bonne année 2021. Salut Pauline.
Salut Marie. Just like the water, falling from the sky.